VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 19h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Le Premier ministre français, Manuel Valls, effectue à partir de demain une tournée en Afrique de l'Ouest. Il affirmait début octobre à Dakar qu'il n'y avait plus de précaré de la France en Afrique. Anastasie Toudjièche.
Manuel Valls poursuit ses visites dans une région où la France fait face à une forte concurrence au plan commercial. Il affirmait début octobre à Dakar qu'il n'y avait plus de précaré de la France en Afrique. Au Togo, il visitera le port autonome de Lomé, géré par le groupe Bolloré. En Côte d'Ivoire, il dégustera du chocolat à l'usine Semoy et rendra visite aux militaires français sur la base de Port-Boué à Abidjan. Au Ghana, il visitera un centre d'entraînement antiterroriste. Le Premier ministre français pourrait être candidat de la gauche à la présidentielle de 2017 si le président François Hollande renonçait à briguer un second mandat. Selon son entourage, il entend afficher pendant ce voyage son soutien aux démocraties africaines. Il était passé au Tchad et au Niger en 2014. L'année d'après, il s'est rendu au Mali et au Burkina Faso. Il vient de boucler le mois dernier une visite au Sénégal pour nouer des contacts directs avec les dirigeants et se construire une image d'homme d'État.
La vague de retrait de pays africains de la Cour pénale internationale redoutée par les autres pays membres s'est concrétisée mercredi avec l'annonce du départ de la Gambie après le Burundi et l'Afrique du Sud. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et Sidiki Kaba, président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, fondateur de la CPI, ont appelé lundi les pays qui critiquent le fonctionnement de la CPI à ne pas s'en retirer, mais à résoudre leurs différends par le dialogue avec les autres membres. Pour analyser la situation, John Lindon a joint à Paris Jemal Taleb, avocat et consultant en relations internationales.
La CPI, évidemment, l'a un tout petit peu cherché parce que le sentiment global que les États africains, parce qu'il s'agit d'eux principalement, est qu'elle est un tout petit peu faite pour eux. Vous savez, le vrai nom du juge, c'est courage. C'est un peu ce que nous a appris Casamayor. En réalité, l'impression que les Africains ont de la CPI, c'est que le vrai nom de la CPI, c'est justice pour l'Afrique. Et donc ce sentiment-là, évidemment, crée, bien entendu, chez eux, une espèce d'injustice et donc de rejet de cette justice. Et bien entendu, c'est un constat d'échec très fort pour la CPI elle-même.
Sidiki Kaba et Ban Ki-moon invitent tous ces pays-là à aller sur la table des négociations et à discuter avec la CPI.
Ils sont un peu dans leur rôle. Donc Sidiki Kaba est dans son rôle en le faisant, Ban Ki-moon aussi. Et donc on ne peut pas attendre moins de leur part. La question de mon point de vue ne se pose pas comme ça. Le sentiment que les Africains ont déjà, quand il y avait Ocampo qui était procureur général, était qu'ils ne pouvaient enquêter que d'un seul côté. Et puis le sentiment, évidemment, est encore plus accru depuis que c'est Fatou Bensouda, parce que le sentiment est qu'on était frappé par une main de loin, on est aujourd'hui frappé par une main de près. Alors, c'est dramatique, en fait, pour la CPI elle-même. Et donc, le rôle de Ban Ki-moon et de Sidiki Kaba ne peut être que celui-là. Si j'avais un conseil à leur donner, et bien entendu que je n'en ai pas, le conseil serait plutôt, pardon messieurs, vous êtes dans votre rôle, mais écoutez un peu plus les Africains et prenez un peu en compte leurs sentiments par rapport à cette justice-là. Et donc il ne suffit pas de leur dire ne partez pas, donnez-leur des raisons plus sérieuses et plus objectives de rester. Sinon, ils ne resteront pas.
Alors pourquoi, à votre avis, la CPI ne poursuit pas d'autres ressortissants d'autres pays hors continent?
La réponse de la procureure générale ou du bureau de la procureure générale est toujours de dire nous ne disposons pas suffisamment d'éléments. La réalité, et c'est beaucoup plus important, c'est qu'en fait, ils vont là où c'est plus facile. Ils vont là où les enquêtes, d'ailleurs, paraît-il, mais c'est en tout cas les livres de quelqu'un qui était de la maison, M. Brinco, je crois, qui disait, elle va chercher là où les éléments lui sont donnés par les gouvernements en place. Quand vous venez vous occuper de la situation de Jean-Pierre Bemba, vous réglez un problème interne à Kabila. Quand vous venez vous intéresser à la Côte d'Ivoire, un camp plutôt qu'à un autre, vous le faites. Mais le sentiment général est celui-là. Et donc l'idée, c'est de dire, oui, c'est la justice des vainqueurs, des plus forts et des plus faibles.
Jemal Taleb, avocat et consultant en relations internationales, joint à Paris par John Lindon.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Guinée-Bissau, l'ancien chef d'état-major de la marine bissau-guinéenne, José Américo Bubo Natchuto, souhaite retourner dans les rangs des forces armées. Il a été reçu aujourd'hui en audience par le président de la République, José Mario Vaz. Le point avec notre correspondant à Bissau, Noah Mankali.
À sa sortie d'audience avec le président de la République, José Américo Boubounetout, a déclaré à la presse qu'il était au palais de la République avec le but de saluer le chef de l'État, José Mario Vaz, après un long et difficile voyage forcé effectué aux États-Unis. Pour son retour dans les rangs des forces armées bissau-guinéennes, l'ancien chef de la marine a dit que tout dépend du commandant en chef des forces armées, le président José Mario Vaz. Boubounetout, on le rappelle, qui risquait un emprisonnement à vie, a été finalement condamné à 4 ans de prison sur des accusations de trafic de drogue. Des missiles étaient retournés le samedi dernier en Guinée-Bissau comme un héros. Boubounetout a été capturé par des agents des États-Unis en avril 2013. Natchout et ses compagnons ont été arrêtés dans les eaux internationales au large de la côte du Cap-Vert par une équipe de l'agence de lutte contre le trafic de drogue américaine. Nouaman Kalibissau, VOA Afrique.
Kenya, un homme a été abattu à l'extérieur de l'ambassade des États-Unis à Nairobi après avoir blessé au couteau un policier en faction. Plus de détails avec Nani Talani.
Selon Vitalis Ocheno, le chef de la police du quartier de Gigiri qui abrite l'ambassade des États-Unis dans le nord de Nairobi, l'homme s'est dirigé directement vers un policier en faction devant l'ambassade américaine, puis a tenté de prendre l'arme de l'agent. L'assaillant a été abattu après avoir porté des coups de couteau au policier. L'ambassade a confirmé qu'il y a eu un incident avec des tirs d'armes à feu. Aucun membre du personnel n'a été impliqué, selon un communiqué de la représentation diplomatique qui a invité les journalistes à se rapprocher des autorités kényanes pour plus de détails. Le policier blessé appartient à l'unité paramilitaire de la police kényane chargée de sécuriser les abords de l'ambassade. Pour le moment, l'identité de la victime reste inconnue. Des enquêteurs kényans et plusieurs membres du FBI ont été déployés sur les lieux pour commencer les enquêtes.
Crise migratoire, l'Union européenne a annoncé aujourd'hui le démarrage effectif de sa mission de formation des gardes-côtes libyens, censée contribuer à la traque des trafiquants de migrants en Méditerranée centrale dans le cadre de son opération navale Sophia. Le lancement de la formation a été officialisé par Federica Mogherini, chef de la diplomatie de l'Union européenne, au moment même où l'OTAN s'engageait à renforcer sa coopération avec l'opération Sophia en lui apportant un soutien logistique et des moyens en termes de renseignement. Actualité hors d'Afrique maintenant, Afghanistan, deux hauts responsables d'Al-Qaïda ont été tués dans une frappe de drone américain. Un coup dur pour le groupe djihadiste dans le pays, Nathalie Barge.
Farouk Al-Qahtani, Bilal Al-Outabi et un autre membre du groupe ont été tués dans un tir de la coalition dans la province de Kunar, selon un communiqué de l'agence de renseignement afghane disant avoir coordonné l'attaque. Il s'agit pour le Pentagone de l'opération la plus importante contre Al-Qaïda depuis plusieurs années, a souligné Peter Cook, attaché de presse du Pentagone. Les États-Unis traquaient Qahtani, un proche d'Oussama Ben Laden, depuis des années, a-t-il ajouté. Il a recruté de nombreux jeunes et sollicitait et distribuait les fonds récoltés dans les pays du Golfe pour financer les opérations extérieures du groupe et celles des talibans en Afghanistan. Al-Outabi a fait de l'Afghanistan une base arrière d'où il menaçait l'Occident et supervisait le recrutement et l'entraînement des combattants étrangers.
Présidentielle américaine 2016 maintenant, la candidate démocrate Hillary Clinton fait campagne aujourd'hui en Caroline du Nord avec Michelle Obama, la première dame des États-Unis. Mais avant cela, Mme Clinton avait beaucoup mis l'accent sur la Floride, État qui pourrait à lui seul lui ouvrir les portes de la Maison-Blanche. Jacques Aristide.
La Floride, dont 23% de la population est hispanique, est le gros de la dizaine d'États clés où se jouera l'élection. Il permettra d'engranger 29 grands électeurs quand il en faut 270 pour gagner la présidentielle. Un nouveau sondage montre Donald Trump en tête en Floride. Cette enquête d'opinion de Bloomberg montre le républicain à 45% des intentions de vote contre 43% pour Mme Clinton dans une course incluant les deux petits candidats, le libertarien Gary Johnson et la candidate des Verts Jill Stein.
Présidentielle américaine 2016 toujours, le président russe Vladimir Poutine qualifie d'hystérie les accusations selon lesquelles la Russie chercherait à influencer les élections aux États-Unis en favorisant le candidat républicain Donald Trump au détriment de la démocrate Hillary Clinton. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.